Oh, ça qui est là, à pas d'aide, frère, ce type de crasse, là, sécurité.
John Saul, écrivain chez les Souverains Anonymes le 10 février 1994.
Tous les chefs modernes qui se prennent pour quelque chose de très important, qui sont en fait que des technocrates, des gens d'efficacité, mais qui se donnent des airs d'importance héroïques, ça commence avec Napoléon. Hitler, c'est Napoléon quelques années plus tard. Mussolini, c'était Napoléon. Et quand vous voyez un type comme Malcolm X, par exemple, qui se donne des airs, n'est-ce pas? Mais c'est Napoléon qui l'a fait. Je m'appelle John Saul et vous écoutez Souverain Anonyme.
Oui, entrez.
Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vois là? C'est le fantôme de Voltaire en personne. Mr. John Saul, si je te demandais tout de suite un autographe, tu vas dire, mais tu me prends pour une star? C'est vrai, je ne peux pas te prendre pour une star, puisque je ne t'ai jamais vu avant, je n'ai lu aucun de tes livres, et je ne t'ai jamais vu danser avec Kim Campbell. Et pourtant, il paraît que ta réputation est internationale, que tes livres sont traduits en d'autres langues, que tu ne cesses d'accorder des entrevues un peu partout, même à la prestigieuse émission française Jamais sans mon livre. Ici, à notre émission Souverains Anonymes, nous recevons d'habitude des stars et des politiciens. Nous répondons à leurs questions et nous leur accordons des autographes. Aujourd'hui, nous allons faire exception. Nous te poserons des questions et si nous sommes satisfaits des réponses, nous t'accorderons des autographes. N'est-ce pas les gars? John Saul, bienvenue parmi les souverains.
John Saul.
Bonjour John.
Je te salue.
Jusque toi, t'as un ex patron.
Je suis le grand cerveau de l'humour.
Moi, je m'appelle Beaufranc.
Hey John,
bienvenue parmi nous.
Bon, ça va.
Bonjour le fantôme des Voltaires.
Je suis le
bienvenue aux Souverains Anonymes. Je m'appelle Aziz.
Bonjour John.
Salut John.
Toi qui es un nomade de la critique.
À vouloir faire un livre pas ordinaire.
Aujourd'hui c'est toi. Nous pensons à nos critiques.
On attire des questions pas ordinaires.
Bonjour John Sylvain.
Je m'appelle Patrick. Je suis un citoyen responsable.
Bienvenue aux Souverains Anonymes. John Saul to Saul.
Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles. Bien entendu.
Le 10 février 1994, les Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal, ont reçu John Saul, écrivain, essayiste, romancier de réputation internationale, cette fois est arrivé avec son livre, un essai, « Les bâtards de Voltaire ». Souverains anonymes, 15 ans, écoute ça.
Ok, c'est vrai, j'ai pas lu tes livres, là, mais j'ai lu le rêveur de ce livre-là.
Oui,
ok, puis quand j'ai pu voir, tu es écrivain, journaliste et voyageur. Tu as été universitaire et même un ex-bâtard à Petro-Canada.
Oui.
Qu'est-ce que tu as vécu de particulier dans ton enfance qui t'a donné cette liberté de choisir pour passer d'un bâtard de Voltaire à un légitime de Voltaire?
Je vois que ça va être difficile de gagner ces autographes-là. C'est, c'est une très bonne question. Je crois qu'on est né, c'est probablement dans son caractère. On est né pour dire oui ou on est né pour dire non. Grosso modo. Et je suis quelqu'un qui a toujours été plutôt un emmerdeur que quelqu'un qui avait envie de dire oui. Ça, c'est pas mal pour être un écrivain, pour commencer. Et j'ai vécu aussi mon enfance, j'étais fils d'un militaire. Et donc, j'étais dans les camps de militaires un peu partout, souvent entouré par les gens de la génération de mon père étaient des types qui avaient fait la Deuxième Guerre, qui avaient débarqué en Normandie, etc. Alors, c'était vraiment les gens d'action, les hommes d'action. Alors, j'étais entouré par l'idée que l'action personnelle, c'était important. Alors, ça m'a jamais... Je crois que c'est assez surprenant pour beaucoup de gens aujourd'hui de penser qu'il faut faire, il faut sortir, il faut penser pour soi-même. Parce que notre société nous encourage de penser comme tout le monde, d'être en accord avec tout le monde. Et alors, Voltaire, je ne sais pas si je suis légitime de Voltaire. Vous savez, il a passé la première moitié de sa vie à dire oui à tout le monde et à chercher à être aimé par tout le monde. C'était l'homme le star d'Europe, hein? On oublie maintenant. C'était l'homme le plus connu du 18e siècle. Et il était plus connu que les rois, que les généraux, etc. Au milieu de sa vie, subitement, au lieu d'essayer de se faire aimer par tout le monde, il a vu que le travail de l'écrivain était d'embêter tout le monde, finalement. C'est arrivé de la manière suivante. Il est devenu un conseiller, un courtisan, un lèche-botte, chez le roi de Prussie. Et en fait, après un certain nombre de mois, il trouvait ça un peu dur. Alors, il avait des soirées de plus en plus difficiles avec ce roi, dans lesquelles le roi voulait qu'il fasse des compliments, dit des choses bien, et puis lui, il ne voulait pas. Alors, finalement, il est parti en courant. Et il a fini habitant sur la frontière française-suisse, là où si la police venait d'un côté, il pouvait aller par là, et de l'autre côté, il pouvait aller dans l'autre direction pour s'échapper. Et il est devenu, à ce moment-là, lui-même, il est devenu Voltaire, c'est-à-dire un embêteur, un emmerdeur, quelqu'un qui était toujours contre les pouvoirs en place. Et c'est un peu ça que les écrivains essaient de faire quand ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Voilà.
Bonjour Jean, je suis le cerveau de l'humour. Aha. Permets-moi de me mettre à nu.
Je suis presque là moi-même.
Ah c'est... bon, comme que je te disais aussi tout à l'heure, je suis écrivain. C'est moi qui ai écrit les butards de vol hier. Mais moi, j'ai pas pris 10 ans. Je suis...
Ben, je suis pas rapide, qu'est-ce que je peux dire?
Je suis à 16 mois. Une page par mois. Alors, John, au culte de la raison, tu opposes le gros bon sens comme moyen de solutionner les problèmes. Mais les gens sont trop habitués aux recettes magiques. Grâce aux spécialistes, aux experts et aux ordinateurs, les gens ne vivent plus leur vie, mais leur vie qu'on leur propose. Une vie rose. Petite vie ou grande vie, c'est à la télévision que ça se passe. Zap, 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 et hop, le tour est joué. Le spectacle est le même. La guerre en direct, l'amour parfait. L'arbitre n'est pas correct. La recette est trop parfaite. Alors je ferme la télé et je chante.
Foule sentimentale, on a soif d'idéal. Les voiles, les étoiles, loin de Bordeaux, bordel, Bordeaux bleu.
John, qu'est-ce que le bon sens pourrait faire dans un système où la raison est devenue le système lui-même?
Qu'est-ce que vous chantez bien, hein? Merci ça, beaucoup. J'aimerais bien pouvoir chanter.
On pourrait peut-être vous en
je
faire
un petit. Je suis nul,
tantôt.
Alors nul. Ben, je crois que... Je donne un petit exemple. Est-ce que dans la formation des avocats et des juges, ils passent du temps en prison? Est-ce qu'ils visitent? Est-ce qu'ils sont venus voir?
Le mien n'est pas venu voir souvent.
Moi, je trouve que ça peut être assez intéressant dans le système de justice si les gens qui prennent les décisions dans ce système venaient passer un peu de temps avant de recevoir le pouvoir. Pas pour des raisons idéalistes, mais juste pour voir comment c'est tout. Pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des gens en prison, ne pas envoyer les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait? Peut-être ça amènerait des changements intéressants. C'est du bon sens, ça, non? C'est quand même étonnant que les juges envoient les gens sans avoir eux-mêmes vu où ils vont les envoyer. Alors, c'est quand même... Moi, vous savez, l'idée dans cette livre, c'est que quelquefois, ça a l'air d'être une idée très abstraite, etc. Mais ce n'est pas très abstrait, parce que ce que je viens de dire, regardez la Première Guerre mondiale. Des millions de gens massacrés pour rien, pour quelques kilomètres, là, quelques mètres. Alors, les généraux qui envoyaient les soldats mourir ne venaient jamais voir le terrain où ça allait se passer. Il y a une... il y a une division qui a commencé vers la fin du 19e siècle dans les armées entre l'état-major, c'est-à-dire les officiers qui organisent la stratégie, et les officiers de terrain et les soldats. Alors, l'officier d'état-major ne sort pas de, je ne sais pas, la maison, le bureau derrière. Alors, le résultat, c'est qu'ils ont fait tous les plans de bataille sur papier, sans aller voir. Et il y a une histoire extraordinaire, je crois que c'est après une bataille qui s'appelle Passchendaele, où il y avait surtout les Anglais, on n'était pas dedans dans cela, mais je crois qu'il y avait quelque chose comme, j'ai une mauvaise mémoire pour les chiffres, mais quelque chose comme 300 000 personnes tuées dans une semaine. Enfin, pour rien, hein? Pour 2 mètres, n'est-ce pas? Hein? Quand même extraordinaire. Et après coup, le numéro 2, Haig était le numéro 1, le numéro 2, j'oublie son nom, mais le numéro 2, en général, est venu voir après, n'est-ce pas? Et il a eu une crise de nerfs, il a commencé à pleurer, il a dit, c'est pas possible qu'on a envoyé les gens mourir là. Mais je ne suis pas du tout touché par sa réaction. On aurait dû le pendre. Il l'a fait sans venir avant. Alors, bon, ça c'est un exemple grandiose, mais l'exemple des juges qui ne viennent pas voir comment c'est en prison, c'est un petit exemple par rapport à 300 000 personnes qui sont tuées dans une semaine, n'est-ce pas? Mais c'est quand même le même phénomène d'une élite qui vit par l'abstraction et pas par la réalité. Bonjour.
Je suis pas Napoléon ni Voltaire, je suis César.
C'est plutôt inquiétant.
Moi, je me pose la question quand je regarde un peu, je suis pas vieux, j'ai 26, 20, je vais avoir 28 ans. Puis quand je regarde tous les problèmes qu'on a dans la société, pas seulement ici, que ce soit ailleurs, on va prendre juste le problème de la contrebande. Moi, je me dis à quelque part, on parle de couper des services. On parle, comme vous disiez tantôt, vous dites qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Oui, sauf que je me dis, on parle de couper des projets, comme vous dites aussi, c'est vrai que les gens vont devenir plus pauvres. Mais si le gouvernement aurait pris les moyens pour, je vais vous donner un exemple concret, la contrebande. On se décide après 4 3, 4, peut-être même 5 ans, peut-être plus longtemps que ça, à commencer à intervenir. Vous ne croyez pas, par exemple, que si les problèmes étaient pris dès le début, qu'on ne serait peut-être pas rendu où on en est présentement?
Il y a quelque chose de très bizarre. On a cette élite énorme, très sophistiquée, mais qui est incapable d'agir au début des problèmes. Ils finissent toujours par agir trop tard. Et je crois que ça fait partie de ce côté spécialisation, abstraction, coupé de la réalité. Moi, je suis le docteur qui fait l'œil gauche. Moi, je suis le docteur qui repère les mains. Alors, on ne se parle pas, donc on ne sait pas qu'il y a une relation entre l'œil gauche et les mains. Ben, c'est la même chose pour la contrebande, n'est-ce pas? Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Pourquoi? C'est tout coupé dans leur petite spécialisation, oui.
Est-ce qu'on peut appeler ça aussi dire que de jouer à l'autruche? Quand je regarde ça, quand je regarde aussi, on parle de la contrebande, mais il n'y a pas juste la contrebande. On peut regarder aussi, moi je regarde la détention, je veux juste regarder la détention. On se plaint qu'il n'y a pas de place. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas de place. Nous autres, ce n'est pas nous autres qui se plaignent. Mais... Même d'une certaine façon, ça fait notre affaire. Mais c'est parce que quand je regarde ça, c'est que, si je ne me trompe pas d'un chiffre, c'est 300 $, je crois que c'est par jour, pour un détenu ici.
Oui.
OK? Est-ce que tu trouves logique qu'un gars, je donne quelqu'un qui a 5 000 $ d'amende, qu'on l'incarcère quand ça va lui coûter 2 et 3 fois plus au gouvernement pour un montant minime de contravention? Moi, je me rends compte qu'il y a un malaise énorme puis que tout est à retravailler de A à Z. Parce que, comme qu'il disait, c'est un servicieux là-dedans. Puis je pense qu'à quelque part, on ne réussira jamais à trouver le juste milieu. Comme qu'on disait tantôt, des solutions idéales, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire un effort, quand même, avec des bonnes bases solides, puis qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça pour quand même avoir une stabilité, puis peut-être améliorer le sort d'un paquet de monde, puis aussi un peu quelque chose dans ce genre-là.
Les gens qui fabriquent les politiques, en général... Ne vient pas voir, que ce soit ici ou pour le contrebande ou pour les attaques militaires, ou c'est vrai à tous les niveaux. Alors il y a cette coupure de la réalité chez les dirigeants qui est réelle. Ce qui est réel, c'est qu'ils ont coupé de la réalité. Et même, il y a des exemples sans fin, d'un refus chez les gens qui prennent des décisions d'écouter ce qu'on leur dit sur le réel. On leur dit ça, et puis on dit, bon, oui, mais vous, votre cas est exceptionnel. Pour le reste, c'est nous qui avons raison. C'est l'abstrait qui a raison, n'est-ce pas? Il y a un merveilleux exemple de ça, si je peux donner encore un exemple militaire. C'est dans la première attaque de gaz dans la Première Guerre mondiale. Première attaque de gaz, c'est en 1915, je crois, fin 14. Alors, le général Ferry, le général français, il a les Canadiens sur sa gauche et les Anglais sur sa droite, n'est-ce pas? Les Allemands en face. Alors, il a par les espions les nouvelles qu'il y aura une attaque de gaz. Alors, on ne sait pas très bien quoi faire, mais il y a des choses qu'on peut faire quand même. Alors, tout de suite, évidemment, ils téléphonent, enfin, par leur système, aux Canadiens et aux Anglais pour dire, attention, il y a une attaque de gaz qui vient. Et puis, ils téléphonent à l'état-major, c'est-à-dire au pouvoir, pour dire... Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils répondent, les gens en haut? Ils disent, général, premièrement, vous n'avez pas le droit de parler avec des Canadiens et des Anglais. C'est nous qui vont parler avec eux. Si vous voulez parler, vous téléphonez chez nous et eux, nous, on va leur téléphoner. N'est-ce pas? Donc, un refus de communication. Et puis, deuxièmement, vous dites que vos espions disent ça, on ne vous croit pas. Alors, quelques heures plus tard, l'attaque de gaz vient. Nous, on arrive à tenir, grosso modo. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait après la bataille? On limoge le général Ferry. Pourquoi? Parce qu'il a eu raison. Parce qu'il a prouvé que la réalité était réelle et que l'abstrait n'était pas réel. Alors, pour rétablir l'abstrait au pouvoir, on le met à la porte et on dit c'est sa faute à lui. C'est classique.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre 1000 et 1 guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait site. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, aux gardes à vous je les félicite. Même aux colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même aux colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
John Saul, écrivain, chez les Souverains Anonymes, le 10 février 1994.
Dans une société occidentale où, en principe, le droit à l'information fait partie des droits de la personne, l'homme n'a jamais été aussi secret. De l'assassinat de JF Kennedy au dernier rapport de police sur la police, impossible de tout savoir. Et pourtant, tout nous indique que nous sommes supposés tout connaître. Les médias n'arrêtent pas de nous donner cette illusion. Plus les moyens de communication sont sophistiqués, moins il y a de communication entre le pouvoir et ceux qui le subissent. John, quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous prendre pour des cons?
C'est pas eux qui vont s'arrêter. Pendant qu'il peut continuer, ils vont continuer à nous prendre pour des cons. Et c'est le citoyen qui n'est pas con qui doit agir de telle manière que c'est clair et net.
John, dans ton livre « Les bâtards de Voltaire », il y a un chapitre sur les stars où tu parles entre autres de la relation incestueuse entre certains politiciens et certaines stars. Veux-tu nous dire, John, pourquoi la vocation politique des stars se révèle plus efficace que la vocation artistique des politiciens? Pourquoi une chanson sur les enfants d'Éthiopie a plus d'impact que le débarquement des Marines en Somalie?
L'inceste, oui. Je ne sais pas si vous avez regardé l'inauguration du président Clinton. Il y a l'inauguration officielle le matin, qui n'est pas très important maintenant. Il y a une Bible, il y a des gens ennuyeux. C'est officiel, quoi. Puis le soir avant, il y avait le gala. Je ne sais pas si vous avez vu le gala. C'était étonnant. Parce que c'était vraiment l'inauguration officielle du président des États-Unis. Il y avait Goldie Hawn qui est venu en mini-skirt, mini-jupe, là, avec une autre actrice, le bras dessus, qui ont dit, nous, les maires d'Amérique, monsieur le président, nous sommes ici pour parler pour les maires d'Amérique. C'est quand même étonnant. Et puis derrière, il y avait Michael Jackson qui est venu parler pour les enfants d'Amérique. Hein? Vous l'avez vu? Ah, non, j'invente pas. Et puis, il y avait... Et puis, il y avait Barbara Streisand qui est venue, comme Martha Washington, le statut de liberté, parler de la justice et de la liberté. Et le président des États-Unis a pleuré 7 fois. 7 fois pendant cette soirée-là. Mais là, on vit dans un monde complètement... Il n'a pas joué là. Non, il a joué après. Mais on vit vraiment, le monde est sur sa tête là. C'est le président du plus grand pays dans l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'il fout là? À pleurer à la télévision parce qu'il y a Michael Jackson qui danse avec les enfants.
Quand je sais. Je sais que je ne sais rien, ou plutôt je doute. Je doute quand je vois des chrétiens devenus plus musulmans que les musulmans eux-mêmes. Je doute quand je vois des juifs ne garder de la mémoire que ce qui fait leur affaire. Je doute quand je vois Jean Chrétien, je ne ferai pas de dessin là, sans veste ni cravate, juste une chemise. Je doute quand je vois les sondages monter en sa faveur. Je doute quand je vois un troisième Johnson à la tête du Québec. Je doute même quand je vois des policiers poursuivants devenus poursuivis. Je doute quand je vois un politicien sûr de lui. Mais ça me rassure quand je vois un intellectuel qui doute. Mais les gens qui doutent sont mal appréciés parce qu'ils remettent tout en question. Il y a eu Copernic, Darwin, Marx, Voltaire, Einstein et bien sûr Brian Mulroney. Avec ce dernier, on a découvert que la Terre tourne par amitié. C'est ce qu'il a voulu nous faire croire, ce maudit bâtard. Mais on sait très bien maintenant qu'une seule chose fait tourner la Terre et l'univers. C'est le doute. Au commencement, il y a eu le doute. Et quand il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus rien. Alors, est-ce que tu doutes de ce que je dis, John?
Je suis en état de doute en permanence. Alors,
Merci.
Et encore plus là.
Je suis citoyen. Oui. Tu es citoyen. Oui. Nous sommes des citoyens. Oui. Mais sommes-nous des citoyens responsables?
Ça, c'est une autre question. Nous sommes de moins en moins nombreux à aller voter et de moins en moins nombreux à manifester. Par contre, nous sommes de plus en plus nombreux à chômer, à chercher du travail, à regarder la télévision. Et nous sommes de plus en plus nombreux à surpeupler les prisons comme Bordeaux par exemple.
Mais le citoyen s'en fout des prisons parce qu'il est trop occupé à chercher du travail, à regarder la télévision. Le citoyen s'en fout des prisons jusqu'au moment où il se trouve dedans. Alors là, il s'étonne de l'indifférence des citoyens envers les prisons. C'est l'histoire du serpent qui se mange la queue. Pour couper ce cercle vicieux, nous, les souverains anonymes, nous avons comme projet de lancer un album de chansons. Des artistes connus sont prêts à chanter nos paroles inconnues, intéressantes, n'est-ce pas, John? Mais ce n'est pas facile d'être citoyen responsable en prison. Le problème ne vient même pas des autorités carcérales, mais de ceux qui ont les moyens. Les hommes d'affaires, John, dans combien de milliers d'années les poètes et les philosophes vont s'accaparer du pouvoir?
Mais écoutez, il ne faut pas demander aux écrivains de prendre le pouvoir. Hein. C'est le citoyen qui doit prendre le pouvoir. Nous, notre travail, c'est de vraiment d'embêter. C'est de poser des questions. C'est de montrer que c'est possible de penser autrement, que c'est possible de changer des choses. Mais ce n'est pas à nous de donner des solutions ou de donner la direction. On est là pour ouvrir, pas pour fermer. Et c'est vraiment un autre travail. Si un écrivain va dans la politique, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas vraiment faire les deux choses en même temps. C'est un autre travail. C'est un travail de... vous savez, c'est un travail très solitaire d'être un écrivain, mais c'est aussi un travail de grande liberté. J'ai des énormes privilèges. Parce que je dis tout ce que je veux. Je travaille pour personne. Personne ne peut me limoger parce que je dis des choses. On peut me faire un procès. Mais on ne peut pas me limoger. Alors, il faut assumer tout ça. Mais il ne faut pas en plus demander qu'on fait de la politique. Mais il y a des gens bien qui peuvent le faire.
J'ai une question à te poser. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est célèbre.
Tu es connu.
Tu dois pas être quelqu'un qui vit d'un moyen restreint. Moi, j'ai une question à te demander. En plein après-midi, à 2h30, tu as faim. Tu décides de manger tes toasts.
Tu mets du bon beurre de peanut dessus.
Moi, je connais un peu la haute société. J'aimerais te demander quel couteau tu prends. Tu prends le couteau à beurre, le couteau à tarte ou le couteau à viande pour mettre ton beurre de peanut sur tes toasts?
J'aime bien les couteaux assez grands, arrondis au bout, là. C'est... Parce que sinon, le beurre, ça passe trop. C'est trop épais et puis pas assez tendu sur le toast.
John Soul, ce n'est pas drôle d'être en prison. Mais c'est encore moins drôle d'être un bâtard de Voltaire. Mais dans la vie, heureusement, il n'y a pas que les bâtards de Voltaire. Il y a aussi les légitimes de Voltaire, ceux qui militent pour un vrai débat public. Parmi ces légitimes, il y en a qui se retrouvent à Bordeaux, le temps d'approfondir la réflexion. John Soul, je souhaite que ta réflexion sur la dictature de la raison dépasse le milieu des universitaires et celui des technocrates pour atteindre les plus concernés, le peuple. La prise de la Bastille 2, ce n'est pas pour demain, peut-être pour après-demain, au lendemain de ma sortie de Bordeaux. Au nom de tous mes camarades, je te déclare souverain anonyme.
Merci.
Bonne fête, souverain anonyme, pour leur 15e anniversaire!
15 ans déjà?
Déjà.
Tabarouette!
15 ans.
Souverain anonyme, c'est à ton tour.
C'est à suivre.
De te laisser parler d'amour.
C'est pas fini, je vous le dis.
Bonne fête, souverain anonyme!
Sac de la abadaïa, tu fais le sorti pour crasser par la sécurité!
Côté maman, côté papa, je le vois.
Bien souvent, sans question de négation, tu fais arriver.
Côté maman,
côté maman.
Déposez-moi
pas.
Souverains Anonymes, émission spéciale des détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. 15 ans, écoute ça.
Save the drama for your mama. Save the drama for your mama.
On revient après cette pause.